Le Marseille populaire, ce n'est pas le Marseille maghrébin. Ce n'est pas le Marseille comorien. Le centre a été envahi par la population étrangère. Les Marseillais sont partis. Moi, je rénove, je lutte contre les marchands de sommeil et je fais revenir des habitants qui paient des impôts. Jean-Claude Gaudin, décembre 2001.
On a besoin de gens qui créent de la richesse. Il faut nous débarrasser de la moitié des habitants de la ville.
Il faut nous débarrasser de la moitié des habitants de la ville.
Le cœur de la ville mérite autre chose.
Claude Valette, adjoint au maire de Marseille, délégué à l'urbanisme.
18 novembre 2003.
Sur 3000 logements neufs vendus à Marseille en 2003, 80% ont été achetés par des non-marseillais en vue de la location, puis pour y habiter à la retraite. Marseille a le taux moyen de croissance du marché immobilier le plus fort de France, plus 20% par an depuis 4 ans. Éric Foyard, président du directoire de Marseille République, septembre 2004.
On va épurer Marseille, qui en a bien besoin. Pierre Laval, chef du gouvernement de Vichy.
Janvier 1943.
Pour que les gens soient mélangés, il faut que certains partent.
Gérard Chenoz, adjoint au maire de Marseille, délégué au centre-ville.
21 avril 2000.
Salut à tous, auditeurs de Grenouille et de Radio Zinzine. Bienvenue pour une émission au cœur de l'actualité sur la mobilisation européenne pour le droit au logement et contre la spéculation immobilière et la ségrégation urbaine. Je vais commencer par apporter quelques précisions sur le générique que vous venez d'entendre. Ces citations sont extraites du livre de Bruno Le Dantec, intitulé « La ville sans nom, Marseille, dans la bouche de ceux qui l'assassinent ». Ce petit livre, qui rassemble donc une multitude de citations éloquentes, est publié aux éditions Le Chien Rouge. Et cette émission s'ouvre donc sur la parole de décideurs, mais les invités de ce plateau sont des personnes qui critiquent les politiques menées par ceux que vous venez d'entendre. Il s'agit en l'occurrence de Annie Pour, du réseau international Novox, Alessi Dell'Umbria, auteur de « Histoire universelle de Marseille », publié aux éditions Agone, Nourdine Abouakil, de l'association « Un centre-ville pour tous », Benoît Eugène, du comité Quartier Midi à Bruxelles et de Novox, et Kaïssa Titus, de la caravane du logement et de la coordination anti-démolition des HLM et des quartiers populaires. Bonjour à tous.
Bonjour.
Vous participez donc à différents niveaux à la mobilisation européenne pour le droit au logement. Alors cette mobilisation a lieu essentiellement ce samedi avec une manifestation qui partira de la Porte d'Aix à 14h pour rejoindre le théâtre Masno en haut de la rue d'Aubagne à Noailles où aura lieu un forum de 16h à 19h. Donc en fait, cette mobilisation est une réaction à l'avenue à Marseille les 24 et 25 novembre des ministres européens du logement et de l'urbanisme. Alors Annie, tu fais partie du réseau international Novox, tu es fondatrice du DAL. Est-ce que tu peux revenir rapidement sur les origines de cette première mobilisation européenne sur le logement ?
Ben c'est simple, c'est lors de la rencontre du dernier forum social européen à Malmö en Suède, l'ensemble des réseaux urbains, comme on les appelle, mais surtout les mouvements de lutte contre la destruction des quartiers populaires et contre les spéculations immobilières se sont réunis dans plusieurs lors de plusieurs débats et lors d'une assemblée générale, nous avons décidé d'enfin faire la première manifestation européenne, et ça tombait bien puisqu'à Marseille se réunissaient lors de la présidence française les différents ministres du logement et de l'urbanisme. Donc nous avons décidé de porter le premier coup de feu, hein, je préfère dire coup de feu vraiment, lors de cette rencontre des ministres européens.
Alors on va essayer de partir du local pour aller vers le global. Et commencer par la rue de la République, qui est un symbole ici en termes de politique dite de réhabilitation et de spéculation immobilière. Alessi Dell'Umbria, est-ce que tu peux nous rappeler l'histoire de cette avenue haussmannienne située donc en plein centre-ville ?
Ça remonte au Second Empire, 1860. Ça a été à l'époque un coup de force contre les vieux quartiers de Marseille et leurs habitants. Hein. C'est une opération qui a été menée par des spéculateurs parisiens qui s'étaient enrichis dans l'haussmannisation de Paris. Donc c'est une artère haussmannienne, pas du tout dans le style de Marseille, qui a percé le relief de la ville ancienne entre le Vieux-Port et la Joliette, qui a abouti à l'expulsion de, je crois, 10 000, 15 000 personnes à l'époque, et la démolition de plusieurs centaines de maisons. Et ce qui est quand même plaisant dans cette affaire, c'est qu'au bout du compte, il y a eu une justice immanente qui a frappé, vu que les bourgeois marseillais à qui étaient destinés ces immeubles, ces appartements, n'ont pas acheté. Ça ne les intéressait pas de venir vivre au voisinage immédiat de la plèbe qui habitait le quartier des Carmes ou du Panier. Ils ont boudé les appartements, à l'exception de quelques compagnies de navigation qui sont venues s'installer. Ce qui fait qu'au bout du compte, les frères Pereire, qui étaient les auteurs de ce coup, ont mangé la grenouille. Et c'est la ville de Marseille qui a récupéré le parc immobilier. Autant dire que c'est le contribuable marseillais qui a payé, hein, quelque part, qui a payé la casse, suivant le vieux principe confirmé tant de fois depuis que les profits sont privés mais les pertes sont publiques. Et ces immeubles ont été habités finalement par une population beaucoup plus modeste que celle qui était espérée au départ, quoi. Et jusqu'à il y a encore quelques années, c'était vraiment un vrai quartier. C'est paradoxal vu le style architectural qui n'est pas du tout marseillais, mais c'était vraiment devenu un quartier populaire marseillais jusqu'au moment où on commençait les expulsions il y a quelques années.
Donc tu parlais de la société immobilière marseillaise de Marseille, c'était le propriétaire ensuite, et je vous propose de continuer ce petit historique avec des extraits du film Les Indésirables de Patrick Taliercio.
La rue de la République a longtemps été à l'image du centre de Marseille tel que le perçoivent les investisseurs étrangers et les élites locales. Populaire par erreur de destination. Située dans l'un des deux arrondissements qui concentrent 60% des logements sociaux de la ville, elle donnait accès à des loyers encore relativement bas, certains gelés par la loi de 1948. La contrepartie semblait résider dans une absence totale d'entretien des immeubles. En 1987, le propriétaire historique des lieux, la Société immobilière marseillaise, revend la partie nord de son bien à une filiale du groupe Danone, qui la cède 3 ans après à la société P2C, qui la revendra à son tour en 2004 à Marseille République, sans qu'aucun travaux n'ait été entrepris. Ces différents spéculateurs s'étaient pourtant tous engagés à rénover, à condition que la mairie intensifie sa politique de reconquête de l'hypercentre. Cette expression désigne l'essentiel du programme du nouveau maire, le sénateur UMP Jean-Claude Gaudin, la toute nouvelle communauté urbaine qui permet à Marseille d'alimenter ses projets avec l'argent de 20 communes avoisinantes, et donc mise à contribution pour commencer les travaux d'un nouveau tramway, de bassins de rétention d'eau et de parkings souterrains. En décembre 2007, les travaux engagés par la communauté urbaine sont terminés. C'est le moment qu'a choisi Lone Star pour annoncer, un an avant la fin de son plan quinquennal, la revente de Marseille République à de nouveaux investisseurs. À ce jour, sur les 14 îlots que possédait Lone Star, un seul a été entièrement rénové. Il contient toujours le bureau de vente et les appartements témoins de Marseille République. Ici, les appartements ont été achetés 3000 euros le mètre carré. Certains avec l'espoir manifeste d'être revendus bientôt. Marseille République se vante d'en avoir écoulé 240, mais ne précise pas si ce chiffre comprend les 120 logements des deux îlots sommairement retapés et revendus avec de nouveaux locataires à des bailleurs sociaux, comme l'îlot 13, où a été finalement relogée Madame Angelini, contre la promesse de ne pas porter plainte. L'un de ces bailleurs sociaux a d'ailleurs contesté la conformité des travaux et les conditions de vente, avant de plier face aux bons offices de Monsieur le maire. Dans l'îlot 12, qui n'a pas été rénové, on ne trouve plus qu'un bar, un garage, une pharmacie et 2 boulangeries. Les appartements ont été entièrement vidés et mis sous cadenas. L'îlot 14 où se trouvait les Corses et Sylvie a été entièrement vidé, ce qui a contraint l'agence de la Caisse d'épargne, co-actionnaire de Marseille République, à déménager sur la place Sadi Carnot. Au moins l'écureuil conserve-t-il quelques noisettes au cœur du renouveau, à côté de cet autre propriétaire de la rue qu'est la Société Générale. La disparition des épiceries de proximité sera-t-elle compensée par la présence de 11 banques dans la rue de la République ? Ou par l'implantation, comme on l'a promet, d'un gigantesque monoprix dans l'îlot 14 ? Ce serait la seule enseigne que Lone Star ait réussi à attirer sur son périmètre, quitte à donner le change avec des devantures postiches dans l'îlot 21, dont la rénovation reste inachevée. La locataire de l'îlot 30 a changé de quartier. Son ancien immeuble abritera des bureaux lorsqu'aura disparu le viaduc autoroutier du boulevard du Littoral, que l'on a promis d'enfouir dans le cadre du plan Euro-Méditerranée en 2009. Grâce au soutien de la Banque mondiale, du FMI, de l'Union européenne, de l'État français et des autorités locales, la transformation du quartier de la rue de la République est donc en bonne voie, nonobstant la crise immobilière qui s'est déclenchée aux États-Unis, a touché l'Irlande et l'Espagne, et devrait atteindre le marché français dans les premiers mois de cette année 2008.
Voilà, on vient donc d'entendre des extraits du film « Les Indésirables » de Patrick Taliercio, ce qui nous donne une vision de la rue de la République qui date de début 2008. Mais depuis, il y a eu pas mal de rebondissements, des nouveaux propriétaires, la crise immobilière qui s'intensifie et très récemment, un appel d'offres lancé à des bailleurs sociaux. Nourdine, tu fais partie de l'association Un Centre-Ville pour Tous. Est-ce que tu peux nous actualiser un peu la situation rue de la République ? Qui sont les propriétaires actuels ?
Actuellement, vous avez ANF qui est propriétaire de la partie entre le Vieux-Port jusqu'à Sadi-Carnot. C'est une société qui s'appelait il n'y a pas très longtemps Euraseo, qui est liée à la Banque Lazare. Et dont le patrimoine était beaucoup moins dégradé que celui de la partie nord et beaucoup moins vacant. Donc cette partie a conservé le même propriétaire qui, constatant cet investissement d'argent public énorme, a agi sur un levier qui est celui de l'augmentation des loyers, puisque des dizaines de locataires dans les baux arrivés à échéance se sont vus réclamer des loyers multipliés par 6, parfois même plus. Pour des personnes qui ont passé 60 ans dans le même appartement, qui sont très âgées, qui ont des pensions très très modestes. Donc c'est pour ce qui concerne la partie entre Vieux-Port et Sadi-Carnot. L'autre partie qui appartenait à Lone Star, celle-ci a été revendue à une société qui s'appelle Atemi. Donc de Sadi-Carnot jusqu'à la Joliette, donc c'est Atemi. Et Marseille République s'est mis au service donc d'Atemi pour garder les mêmes interlocuteurs que les habitants appellent des arnaqueurs. C'est ce qu'on appelle les médiateurs. Donc vous avez une Marseille République qui est une société de une filiale de Lone Star au départ qui aujourd'hui est rattachée à Atemi. Donc aujourd'hui, c'est Atemi qui est propriétaire des lieux.
Et Atemi, il faut éclairer un petit peu, c'est quoi Atemi ? C'est une filiale de Lehman Brothers.
Atemi comporte en son sein Lehman Brothers. Jusqu'à quelle proportion, je ne saurais vous donner le chiffre incontestable. Certains ont affirmé jusqu'à 10%, d'autres un peu moins, d'autres beaucoup plus. C'est un élément que je n'ai pas avec certitude.
Le directeur de d'Euroméditerranée a dit 15% aux journées portes ouvertes la semaine dernière.
Donc Lehman Brothers, c'est la banque américaine qui a fait faillite, mais qui a aussi un fonds immobilier, donc ce serait le fonds immobilier qui serait en partie propriétaire de la rue de la République.
Donc en plus de la crise boursière des États-Unis, en France et ainsi de suite, il faut que vous sachiez que tout n'est pas lié, tout n'est pas connecté uniquement à cette crise boursière. La crise sur la rue de la République date de 4, 5, 6 mois avant. C'est ce qui a été dit par le passé, c'est que le projet qui était prévu pour la rue de la République se heurte à la réalité de Marseille à chaque fois. Donc il a été dit tout à l'heure que la rue de la République s'est retrouvée être habitée par des gens pour lesquels ça n'a pas été prévu. Ça n'a pas été prévu. Ce qui veut dire que entre les délires les projets initiaux des politiques et des spéculateurs, il arrive des fois qu'à l'arrivée, on est tout autre chose. À savoir que les appartements à 4 500 € le mètre carré, je ne pense pas qu'il y ait eu des acheteurs qui aient fait la queue sur 500 mètres. Ça, c'est du délire. Et donc, par conséquent, on a eu une difficulté de déstockage sur tout le secteur d'Euroméditerranée par Constructa, par Atemi, par Marseille République, qui ne voyaient pas les acheteurs se bousculer. Et donc, il y a un délai de déstockage qui s'est beaucoup ralenti et qui a amené un certain nombre d'acteurs à se retourner vers les bailleurs sociaux. C'est dire que la patate est devenue trop chaude. C'est dire que la patate est devenue trop chaude pour fourguer un certain nombre d'immeubles aux bailleurs sociaux dans des conditions d'illégalité totale, puisque ces immeubles sont retapés dans de très très mauvaises conditions, très mauvaise qualité, et remplis, c'est-à-dire que les bailleurs sociaux sont sommés d'acheter des immeubles non pas vides comme ils étaient, mais avec les locataires anciens de Marseille République et d'Atemi. Voilà.
Oui, je sais qu'il y a le bâtiment, je crois que c'est l'îlot 13 qui a été rénové là, à l'angle du boulevard des Dames et de la rue de la République, où un certain nombre d'appartements ont été achetés par des gens, des techniciens ou des acteurs qui sont sur le tournage de Plus belle la vie. Tout se tient.
On a parlé de beaucoup de pression sur les habitants. Alors, quel est le lien entre spéculation et pression sur les habitants ?
La spéculation, si vous voulez, P2C, qui avait acheté en 2001, a vendu en 2004. Et sans avoir engagé un centime de travaux, avait engrangé 30 millions d'euros de bénéfices. Ça, c'est de la spéculation, puisque c'est simplement... sans apporter aucune plus-value, sans apporter de la réhabilitation, de la rénovation, de l'amélioration, simplement en voyant les trains passer, ils ont engrangé 30 millions d'euros et ils ont vendu en 2004. Est arrivé par la suite Lone Star et Marseille République, très épaulé par la mairie Gaudin, qui se vantait d'avoir pu attirer les meilleurs et tout ce qu'ils en veulent, en se fixant comme objectif un taux de rentabilité annuel de 18%. Ça, c'est les déclarations des responsables de Marseille Public au départ.
18,6 même.
18,6. Et tout ce petit monde s'est mis au service de ce taux. Et les habitants sont devenus moins que rien. Sont devenus des numéros, disons, et ont été considérés comme des obstacles, et non pas des bénéficiaires potentiels d'une rénovation et d'une réhabilitation, mais sont devenus des obstacles, voire des ennemis, sur le chemin de ces spéculateurs. Et Marseille République savait que l'immobilier, ce sont des cycles, et par conséquent que le temps n'était pas en faveur des spéculateurs, et ce qui les a conduits à mettre en place des mécanismes très, très rodés, avec l'appui de la municipalité, d'éviction de tous les locaux qui étaient occupés par des habitants qui étaient à jour de leur loyer, dont certains n'étaient absolument pas insalubres, n'avaient même pas besoin de travaux, et qui... parfois vivaient là depuis 60 ans. Et ce mécanisme, c'est celui de la peur, de la pression, de la menace. Moi, j'ai vu beaucoup de femmes âgées, très âgées, 84 ans, 85 ans, qui recevaient des coups de fil 10 fois par jour pour leur dire que si vous ne partez pas, si vous n'acceptez pas de partir, votre immeuble allait être squatté, que de toute manière, il n'y allait plus avoir de fenêtres, et que de toute manière, les squatteurs, ce sont essentiellement des étrangers qui se bagarrent à coups de couteau, et que Marseille République ne peut pas garantir la sécurité des personnes. Et j'ai vu, et j'ai prononcé souvent le mot de personnes terrorisées, c'est-à-dire des gens qui ont sombré dans une dépression alors qu'elles n'ont absolument rien à se reprocher. Donc ce sont les méthodes qui ont conduit une partie des habitants sur le plan humain à céder à cette pression et à accepter des transactions avec Marseille République.
Annie, tu voulais ajouter quelque chose ?
Oui, je voulais surtout dire que malheureusement, c'est pas que la rue de la République. Il suffit de se promener sur la Canebière et ailleurs. On voit combien il y a d'immeubles vides. Et je crois que la méthode est toujours la même. Je dirais même que c'est presque pratiquement une méthode mafieuse très organisée sur Marseille. Le constat, en tous les cas, est qu'il y a 32 000 logements vides à Marseille. Alors que on peut, il suffit de se promener le soir pour savoir le nombre de gens qui sont effectivement en errance urbaine et sans logement. Sans compter qu'effectivement, les milliers de familles qui vivent dans des situations de taudis inacceptables et demandeurs de logement depuis des années, et reconnus d'ailleurs par la fameuse loi Dalo inefficace, en tous les cas pour le moment absolument inappliquée. Et donc moi je crois qu'il faut dire la rue de la République et l'ensemble des quartiers, mais que la situation la plus dégradée me semble la plus grave sur Marseille étant effectivement les quartiers nord.
On y reviendra après. On fait une petite pause musicale avec un morceau de musique qui est complètement dans le sujet. C'est Le Panier de Raspighaus.
Ils vont pas par quatre chemins. La magouille politique n'a jamais rien eu de serein. Si dans deux jours tout n'est pas parti, ton immeuble sera détruit. Et si de loyer tu payais une misère, pour que la mairie puisse empocher sans se fouler tout notre blé. Pour l'instant, tout le monde se laisse faire. On ne nous a jamais appris à faire la guerre. Vivre en tranquillité, c'est tout misère. Aujourd'hui, ça leur paraît facile, ouais. Ouais, mais demain, nous serons moins dociles. Qu'ils se méfient, qu'ils fassent attention à la rébellion. Oh, quartier, on épargne. Non, 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 on voit bien. Par l'immobilier qui n'a de cesse de tout détruire pour me reconstruire. Il faut se mobiliser, se réunir et s'expliquer. Organisons une défense, soyons plus malins qu'ils ne le pensent. Godin devient méchant, Godin devient menaçant. Il faudrait lui faire comprendre que notre quartier n'est pas à prendre. Lui faire ravaler son projet Euro-Méditerranée. Si personne ne lui dit, il va nous transformer Marseille en Paris. Et nous aussi. Attention Marseillais, réagis. Au quartier, on épargne. Non, 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 non. On voit bien notre avenir menacé par l'immobilier qui n'a de cesse de tout détruire pour nous reconstruire.
On poursuit notre émission spéciale sur la mobilisation européenne pour le droit au logement et contre la spéculation immobilière et la ségrégation urbaine. Benoît, tu fais partie du comité du quartier Midi. à Bruxelles. Quel parallèle tu dresses entre ce qui se passe dans la capitale européenne et Marseille ?
C'est deux villes qui ont prétention à être capitales, devenir capitales et donc, à changer leur population. C'est deux villes très populaires, où les pauvres sont sans centre-ville, c'est une caractéristique très importante. Et il faut les virer, quoi. Il faut les virer, et c'est les mêmes méthodes à Bruxelles et à Marseille, même si la situation est complètement différente, parce que c'est une ville de petits propriétaires, il n'y a quasiment pas de logements sociaux, mais c'est des petits propriétaires pauvres. Et même le fameux droit de la propriété ne protège pas contre l'éviction. Alors, donc, au quartier Midi, par exemple, juste à côté de la gare TGV, il n'y a même pas d'acteurs privés, puisqu'ils ne sont jamais venus, les acteurs privés, c'est carrément la région de Bruxelles-Capitale qui se charge de libérer le terrain. Et comme, effectivement, ils ont toujours été dans un cycle où il n'y avait pas beaucoup d'investisseurs pour les bureaux, en tout cas dans cette région de Bruxelles, parce que les bureaux préfèrent s'installer du côté de la Commission européenne, bien évidemment. Ils ont trouvé un système qui est extraordinaire. Ils ont capacité de faire des plans d'expropriation de 10 ans renouvelables une fois. Donc là, on est depuis 20 ans au quartier Midi. Ils ont fait 4 expropriations en 20 ans. Par contre, ils ont laissé dégrader le quartier. Les gens peuvent pas vendre à qui ils veulent. Ils peuvent pas, on se fait défoncer sa porte de rue. On peut pas la remplacer. Ils envoient les flics pour empêcher de le faire. On a un père qui devient handicapé. On n'a pas de permis pour aménager la salle de bain. On peut pas refaire sa toiture, etc., etc. Donc ça pourrit. La vie devient invivable. Et c'est l'État qui essaie de racheter. On voit des fonctionnaires d'État proposer des prix ridicules au gré à gré et être extrêmement menaçant face à une population qui est souvent d'origine immigrée et qui a peur du juge, en fait. On dit on va vous envoyer chez le juge, donc ils ont peur. Voilà. Au niveau du nettoyage social de Bruxelles, ce qu'il y avait dans le générique, là, sur Marseille, on pourrait trouver les mêmes choses, à tel point que, sur un cas d'expropriation au quartier Midi, le juge, lui, qui devait justifier l'utilité publique, il s'est pas gratté, puisqu'il a mis comme attendu exactement ce que c'était. Il a dit « attendu que la gare du Midi ne peut plus être le terminus des migrants pauvres en quête de terre promise ». Voilà. Et vous avez l'adjoint, par contre, au petit commerce, qui lui, quand on lui dit « mais vous êtes en train de tuer tout le petit commerce de votre commune », qui dit « les petits commerçants sont voués à disparaître ». Donc, on a exactement la même chose. Et les politiques de mixité sociale sont dénoncées par la Cour des comptes elle-même comme des politiques de gentrification. Elle dit « on prend de l'argent public, non pas pour loger les pauvres, mais pour virer les pauvres et mettre des riches ». C'est rapport de la Cour des comptes. Et évidemment, la caractéristique commune sur laquelle il faut toujours insister, c'est la violence extrême de la libération du terrain, quoi. Alors, quartier Midi, c'est particulièrement vrai parce que, avec ces plans d'expropriation qui sont en extrême urgence, ça ne les oblige pas à exproprier urgemment. Au contraire, ils peuvent attendre 20 ans, mais quand ils décident, c'est 10 jours. Ça veut dire qu'ils ont rendu du terrain habité et propriété de petits propriétaires entièrement liquide du point de vue du marché financier. C'est-à-dire qu'on peut dégager le terrain en 10 jours. Et donc, ça, c'est absolument terrible. Et ça illustre bien, finalement, ce qui se passe avec la financiarisation de l'immobilier. Il faut faire monter la valeur du foncier. Ce qui est intéressant, c'est la valeur spéculative du terrain. C'est pas du tout l'usage qu'on en fait, même pour les bureaux, parce que les profits qui sont escomptés, qui sont calculés, ne sont même pas sur le prix de location, par exemple, du bureau, mais sur la valeur du terrain, la capacité à construire et déconstruire. D'ailleurs, pour ça que ceux qui construisent des tours, directeur d'Euromed, là, je lui ai posé la question la semaine dernière, je lui ai dit, mais vos magnifiques tours là, que vous êtes en train de construire à Reims, c'est quoi leur durée de vie? Et il m'a dit, il a confirmé en gros que c'était 15 ans, quoi.
Et pour toi, ce qui est en cause, c'est le modèle de cette mise en compétition des grandes villes.
C'est ça, on a décidé que, mais c'est pas vrai, c'est vrai de l'Union Européenne, mais c'est vrai dans le monde entier, la Banque Mondiale a décidé ça au tournant des années 80, que maintenant, pour apporter la prospérité, il fallait que les villes soient en capacité d'attirer le capital financier, les grandes entreprises et leurs cadres. Et donc il fallait mettre tout l'argent public et tout l'argent du développement, pour dans le tiers-monde par exemple, pour faire des villes où les riches seront heureux. Parce que si les riches sont heureux, ils vont payer des impôts et comme ça on pourra s'occuper des pauvres. Mais en attendant, on dégage les pauvres. Voilà. C'est une espèce de truc, c'est typiquement néolibéral, c'est même néolibéral, ça ressemble au soviétisme, quoi. C'est-à-dire, il faut que vous en chiez un grand coup, qu'on découle la quise à tout va, etc. Et vous verrez, dans 100 ans, ce sera la prospérité pour tout le monde. Bon, ce coup-là, il a déjà été fait plusieurs fois, hein.
Kaïssa Titus, tu fais partie de la coordination anti-démolition des HLM et quartiers populaires. Tu es arrivée avec la caravane du logement.
Oui, je voulais juste faire une première remarque. C'est qu'en fait, On vient d'entendre toute une série de propos concernant les centres-villes, entre autres le centre-ville de Marseille. Ce que je voudrais dire, c'est que le même discours est servi pour tous les quartiers populaires de la France entière. Concernant le programme national de rénovation urbaine initié par Borloo en 2003 et la création de l'Agence nationale de rénovation urbaine en 2004, on retrouve le même propos, c'est-à-dire qu'il faut aérer, il faut désenclaver, il faut reconquérir les territoires, il faut sécuriser les territoires. Donc on voit bien qu'il y a une cohérence, en fait, il y a une logique extrêmement sécuritaire, en plus une logique extrêmement mensongère qui est qu'on va reconquérir des territoires, mais lesquels et pour qui. Et puis, il y a une logique extrêmement libérale qui est que pour reconquérir ces territoires, eh bien, il faut démolir du logement social ou des logements des plus modestes. Et pour ce qui concerne les quartiers populaires, donc toutes les cités HLM, à partir du moment où on se met de manière massive à détruire, puisque le projet, c'est 300 000 démolitions d'ici 2013, c'est 45 milliards d'euros d'argent public qui est mis sur la table. En comparaison, le plan banlieue dont on avait prévu qu'il ferait 500 millions, fait pâle figure. Donc 300 000 démolitions, 531 quartiers, 8 millions de personnes qui seront touchées et 1 million de logements qui seront soit réhabilités, soit, je dirais, d'une certaine manière, achetés, vendus ou démolis. Ceci donc pour dire que c'est la démolition des quartiers populaires, en fait, c'est le point final, je dirais, de la chasse aux pauvres, du blanchiment des villes et du fait que les gens, le libéralisme a décidé qu'à un moment donné, ils construisaient des usines, il avait besoin de main d'œuvre et donc il fallait construire du logement. Aujourd'hui, il n'y a plus de travail, il n'y a plus d'usines, il n'est pas question de continuer à construire du logement social. Et une dame me disait au Mureau où il y a un projet qui prévoit 1800 démolitions, si notre municipalité ou les pouvoirs publics pouvaient nous mettre dans les bennes et en même temps que les débris de nos immeubles, eh bien ils le feraient. Ceci donc pour expliquer que la question des démolitions est au centre, je dirais, de la caravane contre la crise du logement. Caravane qui est organisée principalement par Droit au logement, avec un certain nombre de comités locaux, le DAL Dax, le DAL Bayonne, le DAL Toulouse, et puis toute une série de comités locaux. La communauté d'Emmaüs, l'Escarpeau, et qui assure, je dirais, la logistique, avec un certain nombre d'associations qui sont donc dans la caravane, le comité des sans-logis, l'association ALEM, qui est donc l'habitat mobile et éphémère. Il y a eu d'ailleurs une première tranche de caravane qui a commencé le 14 octobre et qui est partie de Pau, qui a traversé donc Bayonne, Hendaye, Bordeaux, Tours, Orléans, et nous sommes arrivés à Paris, dans la région parisienne, où nous avons fait un certain nombre d'actions concernant un certain nombre de villes extrêmement riches où le logement social manque, hein, donc entre autres Croissy, Neuilly, où c'est 3% de logement social. Et là, c'est la deuxième tranche donc de la caravane, qui est de même repartie de Pau, qui a traversé Toulouse. Nous sommes allés à Bessègues. Nous sommes à Marseille et en vue de la manifestation, évidemment, de demain. Voilà.
Et alors, justement, quel est votre programme à Marseille? Quelles actions concrètes vous allez mener?
Je crois que cet après-midi, il y a un certain nombre d'initiatives. Ce que je voulais d'abord dire, c'est autour de quoi, juste quelques mots autour des actions que nous avons effectuées lors de la première tranche et lors de la seconde tranche. En fait, la question du droit au logement et de cette caravane, c'est de pointer déjà, de dire qu'il y a extrêmement de gens qui sont extrêmement mal logés. Okay. Il y a 3 millions de gens qui sont mal logés dans ce pays et on peut pas d'un côté démolir des immeubles ou faire de la spéculation immobilière et laisser des gens dans la rue. Souligner que la loi Dalo est extrêmement mal appliquée et que les commissions arrivent à reloger quelquefois même pas 20% ou un tiers de demandes et qu'il y a énormément de familles qui n'arrivent pas à faire valoir leurs droits. C'est aussi articulé autour de ce mal logement simplement le fait qu'il y a des gens qui ont envie de vivre autrement et défendre l'habitat choisi, et puis donc, et puis parallèlement donc mobiliser autour de la solitude des habitants dont on démolit les immeubles dans les quartiers populaires. Voilà.
Et alors donc le programme à Marseille.
Le programme à Marseille, je crois que c'est plus Annie qui l'a préparé. Je pense que elle pourra beaucoup mieux expliquer que moi le programme de ces deux trois jours.
Alors Annie.
Moi, je voudrais d'abord rajouter aussi que malheureusement, ils ne font pas que détruire. Ils vont vendre l'objectif du gouvernement quand même, de la loi Boutin, c'est aussi de vendre 40 000 logements sociaux par an.
Mais
c'est important parce que c'est pas que destruction, c'est en plus effectivement comme dans l'ensemble des pays européens, parce que ce soit le Danemark, la Suède, etc., les pays où le logement public représentait 80% quand même du logement, aujourd'hui l'objectif, y compris dans les pays nordiques, dit modèle public aujourd'hui et modèle social aujourd'hui sont soumis à la politique libérale, et la vente va se faire d'une manière massive aussi du côté du parc social du logement. L'arrivée de la caravane. Alors l'arrivée de la caravane, évidemment, ça va commencer cet après-midi. Tout le monde va se mettre en place. Et on va effectivement commencer à pénétrer l'espace public, comme on dit, hein, les vélos, les camions, et puis surtout les familles qui ont toute une réponse favorable de la commission Dalloz, évidemment, et qui vont aller, je pense, d'une manière très claire, aller revendiquer auprès de la préfecture et de la mairie une réquisition d'immeubles. Alors Lehman Brothers a fait faillite. D'abord, je pense que rien que la rue de la République, mais pas la seule, pourrait être effectivement aujourd'hui réinvestie en termes de logement social au-delà des 20 ou 30%, parce qu'on ne sait plus très bien ce qui avait été promis ou ce qui va être tenu en tous les cas.
C'était la règle des trois tiers qui avait
été promis. C'était la règle des trois tiers. Donc nous, on pense aujourd'hui que ces immeubles, compte tenu de la situation, risquent fortement d'être inoccupés pendant des années. Donc on pense que c'est le moment de demander l'application de la loi de réquisition. Elle est parfaitement... les familles aujourd'hui sont parfaitement légitimées à revendiquer la réquisition auprès de la mairie et auprès de la préfecture. Ça, c'est évidemment l'entrée en bouche. Je pense qu'après, il y aura des formes d'action et de solidarité qui sont propres à la caravane et qui se mettront en branle dans la soirée. Demain, évidemment, la caravane participera et en tête avec les familles au rassemblement à la Porte d'Aix à partir
samedi.
De 13h, samedi.
Samedi, ouais.
Voilà, samedi.
Je voudrais juste rajouter un mot, parce qu'en fait, on a oublié de dire que dans le même temps qu'il y a cette réunion des ministres européens du logement, il y a en seconde lecture le projet de loi Boutin, et la caravane de la crise du logement, elle a été surtout initiée pour essayer de faire en sorte de mobiliser contre un certain nombre de dispositions contenues dans la loi Boutin, le remis en cause de la loi SRU, l'expulsion des locataires, les délais d'expulsion qui sont raccourcis pour un certain nombre de gens, la mauvaise application de la loi Dalloz, et surtout favoriser la spéculation immobilière par le fait que Mme Boutin a décidé que les bailleurs sociaux devaient acheter un certain nombre de programmes immobiliers de sociétés qui n'ont pas trouvé preneur.
On va y revenir, vous allez tous pouvoir encore placer quelques mots. On écoute Kenny Arcana, La rue nous appartient.
Expulsés de nos centres-villes, expropriés de nos droits, colonisation trop subtile pour vraiment le peuple voir. Divisés dans la peur, trop renfermés sur nos mères, celles qu'ils sèment et dont les fruits nous arrivent en pleine gueule. C'est le même bourreau qui vient taper sur nos crânes, et entre nous, on se déverse tout le poison de nos drames. Ça tord dans la rue, supporte tous les malheurs, pendant que des bâtiments sont vides, donc pour prendre de la valeur. Ça expulse des familles, des vieux, des enfants, entre cartes de CRS et caméras de surveillance. Quelques années ont suffi pour aseptiser nos ruelles, apartheid social et culturel. Aujourd'hui, les fachos s'affirment, aiment nous humilier. La ville n'est plus au peuple, mais aux marchands d'immobilier. Fonds spéculatifs, les appétits deviennent tarés. Depuis que la guerre aux pauvres est déclarée, expulsés de nos vies, comme expulsés de nos vies, on ira occuper la rue, comme tous les immeubles vides. On ira affronter l'abus qui sévit et va trop loin. On ne laissera pas voler la rue, Les cow-boys sont armés, prennent goût à ta base. Veulent faire déborder le vase pour mieux nous voir boire la tasse. C'est le nouvel ordre qui tape jusqu'à nos quartiers. Police featuring Air France, si jamais t'as pas de papier. Babylone construit son empire sur nos misères. Depuis que les droits de l'homme sont morts lors d'une bavure policière. Génération bouc émissaire. Mégots de jeunes sous le préau écrasé. Mais qui n'a pas dit son dernier mot. 2008, injustice. Y'a que des murs et des tensions. Des familles, même des enfants enfermés en rétention. Survivre dans ce merdier devenu un mode de vie. Des SDF qui crèvent dans le froid devant des immeubles vides. La guerre aux pauvres est officielle. Dites-leur ça va trop loin, pas d'apartheid dans la rue nous appartient. Expulsés de nos villes, comme expulsés de nos vies. On ira occuper la rue, comme tous les immeubles vides. On ira affronter la pluie, qui sévit et va trop loin. On se laissera pas voler la rue, car la rue nous appartient. Ils veulent dessiner l'apartheid, on dessinera le maquis. On ira se réapproprier, tout ce qu'ils ont pris pour acquis. Sans logis, sans papier, sans rêve et sans droit. Solidarité, on est ensemble sur le front des sans voix. Qu'ils ont le chiffre, qu'on a le nombre. Et que la rue nous appartient. Mesures européennes, réhabilitation, synonyme d'expulsion et d'aseptisation. Syndicats, collabos qui jouent le jeu de la drague. Pendant que le chaos social est étouffé à coups de matraque. Une populace qui se voit la face, mais jusqu'à quand? Et ces putains de médias vendus qui ne connaissent que la propagande. Des flics violents qui aiment provoquer les jeunes. Gouvernement fasciste qui nous en met plein la gueule. Des fonds de pension privés qui rachètent des quartiers entiers. Qui virent ses habitants sans prendre la peine de reloger. Sans papier, humilié par les gardiens du chaos. Compagnie aérienne, complice de la nouvelle Gestapo. Trop de collabos pour les charters de la honte. Fichage ADN, coups et blessures et déportations. J'appelle à la résistance, mobilisée sur le terrain. Désobéissant, car la rue nous appartient. Expulsés de nos vies, comme expulsés de nos vies. On ira occuper la rue, comme tous les immeubles vides. On ira affronter la pluie, qui sévit et va trop loin. On se laissera pas voler la rue, car la rue nous appartient. Ils veulent dessiner l'apartheid, on dessinera le maquis. On ira se réapproprier, tout ce qu'ils ont pris pour acquis. Sans logis, sans papier, sans rêve et sans droit. Solidarité, on est ensemble, sur le front des sans voix. Voilà l'esprit du maquis, mon frère. Résistance sur le terrain contre leur politique d'apartheid. Car la rue nous appartient et parce que nos vies nous appartiennent.
On continue notre émission sur la mobilisation européenne pour le droit au logement. Et je vous propose d'écouter des extraits du forum Sudinfo qui s'est tenu début novembre à Marseille. Le principe, c'était que des acteurs économiques expriment leurs idées, leurs rêves pour préparer le Grand Marseille de 2020 et qu'ensuite, les grands décideurs répondent.
La Caisse d'épargne vous présente les partenaires du forum Sudinfo.
Là, on va d'abord entendre Marc Pietri, 388e Fortune de France, PDG de Constructa. Constructa, c'est le promoteur immobilier qui a le projet d'ériger trois tours à côté des docks, face à la mer.
Reconstruire la ville sur la ville, en évitant les erreurs de l'après-guerre. La ville pour tous, c'est la mixité des populations, des usages. C'est créer la ville, par la ville et la vie par la diversité.
Yves Morène, qui représente le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin.
C'est une ville de rêve, une ville solidaire. Et Monsieur Pietri, vous l'avez dit formidablement, je l'ai noté, je le réutiliserai, vous ne me demanderez pas de droit d'auteur. Ce qui est grand ne laisse personne de côté. Effectivement, si Marseille veut être grande, Marseille ne doit laisser personne de côté. Et il ne s'agit pas de bouter les pauvres hors de Marseille. Jean-Claude Gaudin, qui est né d'un père maçon et d'une mère ouvrière, ne se risquerait pas à ce genre de choses. Par contre, ce qu'il faut assumer, c'est de dire que Marseille doit sortir de sa pauvreté historique. Marseille doit devenir une ville plus riche parce qu'on partage mieux la richesse qu'on ne partage la pauvreté, sauf si on est des adeptes de l'assistanat pour transformer l'assistance en bulletins électoraux. Et ça, nous ne le voulons pas. Alors oui, voilà les rêves que vous avez faits. Ce sont des rêves magnifiques et nous vous disons, Monsieur Iter, yes, we can.
Michel Trégan, au nom de Michel Vauzel, président PS de la région PACA.
Je reviendrai sur l'intervention, et alors ça m'a un petit peu surpris, de Monsieur Pietri, qui a parlé de respect de la mixité et de la diversité. D'autres aussi l'ont dit, mais lui l'a dit très fortement, et moi personnellement, je ne m'attendais pas nécessairement à ce que ça vienne de sa bouche. Alors oui, bien sûr, Marseille 2020 doit se construire en respectant tous ceux qui habitent dans cette ville, d'où qu'ils viennent. Marseille, elle est riche des hommes et des femmes qui viennent d'ailleurs, qui viennent de tous les côtés de la Méditerranée. Et quand Marseille, capitale européenne de la culture, Marseille qui se veut capitale euro-méditerranéenne, même si on n'est pas, si on n'a pas le siège, donc soyons la capitale euro-méditerranéenne dont nous rêvons tous, en respectant tous les hommes et les femmes qui sont dans cette ville, et qu'en 2020, d'où qu'ils viennent, ils aient une formation, un logement, un emploi, qu'ils puissent se transporter dans une ville propre et qu'ils soient tous fiers d'être Marseillais.
Michel Sapin, préfet de la région PACA.
Marseille, dans 12 ans, verra tout ce qu'on a lancé depuis quelques mois, quelques années, se concrétiser. Un littoral tout à fait nouveau dans son urbanisme, un centre-ville rénové en grande partie, donc une amélioration tout à fait étonnante et un changement d'image, en tout cas, qui frappera, je pense, tous ceux qui viendront dans la ville, et notamment sur le littoral, qui aura profondément changé. Deuxième chose, une cohésion sociale, je dirais, probablement renforcée, à la fois parce que tous les efforts que l'on fait tous, les uns et les autres, ensemble, pour essayer d'améliorer, de mieux intégrer l'ensemble des populations qui habitent Marseille, auront, je l'espère, porté leurs fruits, et aussi parce que, sur le plan de l'urbanisme, toujours, les projets en rue, les projets de l'Agence nationale de rénovation urbaine, auront abouti. Je pense que dans 12 ans, on peut espérer effectivement qu'on en aura vu la fin, et qu'on aura donc amélioré de beaucoup l'habitat d'un certain nombre de populations défavorisées.
Alors j'imagine que vous avez pas mal de réactions. Est-ce qu'on peut d'abord revenir sur l'ANRU ? Peut-être avec toi, Kaïssa, qu'est-ce que c'est l'ANRU ? Et est-ce que effectivement ça va améliorer les conditions des populations défavorisées ?
Alors l'ANRU, ça veut dire Agence Nationale de Rénovation Urbaine. Elle a été mise en place en 2004. En fait, l'ANRU, c'est la banque. C'est une espèce de banque centrale qui permet aux porteurs de projets qui sont les maires de venir déposer un projet de rénovation urbaine. C'est dirigé par un conseil d'administration et il y a un comité de suivi qui évalue la politique de l'ANRU. D'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls à dénoncer la politique de l'ANRU. Récemment, le comité de suivi de l'ANRU a lui-même pointé non seulement les difficultés financières, l'absence de reconstruction du 1 pour 1, et surtout le fait que l'ambition, en fait, prioritaire affichée, c'était d'instaurer la mixité sociale. Et le comité de suivi de l'ANRU lui-même dit que, vu la frilosité des élus pour construire du logement social, on n'arrivera pas à mettre véritablement en place ce que l'on affichait, c'est-à-dire la mixité sociale et raciale. Okay. Aujourd'hui, je voudrais quand même souligner que le règlement intérieur de l'Agence nationale de rénovation urbaine ne prévoit pratiquement aucun cadre pour respecter le droit des habitants. Par exemple, rien n'est prévu sur véritablement la concertation. L'Agence nationale de rénovation urbaine préconise certains conseils. Il faut qu'il y ait une concertation, donc libre au maire de l'organiser. Et souvent, les habitants apprennent par affiche, par courrier, par souvent quelquefois un tract distribué dans la boîte aux lettres, que leur appartement va être démoli. On n'imagine pas la violence dans certaines villes de ce genre de politique. Et tout à l'heure, Centre-ville pour tous soulignait ce que vivaient les personnes dans l'avenue de la République. Je voudrais dire que nous, en tant que coordination anti-démolition, on voit des familles complètement démunies, on voit des gens, des retraités qui sont dans l'incapacité de pouvoir accéder à du logement neuf, on voit des populations éparpillées sur plusieurs communes. On voit des quartiers qui ne ressemblent plus qu'à une espèce de construction de route où la police, quand on imagine ce que était Mantes-la-Jolie il y a 15 ans et aujourd'hui, je veux dire, on a froid dans le dos. On n'est pas contre toutes les démolitions. C'est évident que les villes se renouvellent. D'accord ? Mais la question, c'est que pourquoi, si on voulait vraiment améliorer la vie des habitants, pourquoi avoir laissé ces cités se dégrader pendant 30-40 ans et d'un seul coup décider que la démolition serait la seule solution alors qu'il peut y avoir des réhabilitations ? Et surtout, c'est que la ville ne se fait pas sans ses habitants. et que la première des choses, c'est de demander ce que veulent les habitants sur leur quartier, si comment ils voient aussi leur ville. Et donc on voit bien que ces projets ne sont pas faits dans l'intérêt des habitants, mais pour augmenter la spéculation foncière, pour augmenter le prix du foncier, parce que c'est toutes les banlieues des grandes villes. Et puis surtout, c'est ce qui n'est pas dit, mais qui quelquefois est reconnu par les élus eux-mêmes, c'est que des populations qui coûtent très cher dans les communes, eh bien on n'en veut plus. Hein, l'image du logement social est vécue comme quelque chose, comme des populations délinquantes, des populations ratées, des populations assistées. Et je crois qu'il y a vraiment beaucoup de choses à nous en tant que militants à faire pour réhabiliter la mémoire de nos quartiers, les luttes, les résistances, et dire que les gens de ces quartiers ont droit au respect.
Qui veut réagir aux propos, aux rêves des décideurs politiques et économiques?
Je voulais juste dire que là-dessus, on est allé coller quelques affiches dans les quartiers nord, là, ce qui se fait pas trop, manifestement, parce que il faudrait peut-être militer un petit peu dans ces coins-là, parce que les gens, ils sont assez réceptifs au logement, message transmis. On était à Plan d'Aou, je crois que ça s'appelle. C'est extraordinaire en termes de rénovation, justement, parce qu'il y a une cité qui est dans un très mauvais état, qui n'a pas été entretenue depuis très longtemps, ça se voit. Et juste à côté, il y a eu une reconquête. Il y a une résidence fermée. Haut de gamme, avec donc fermée, avec gardien, grillage, etc. Parce que c'est sur un plateau, comme ça, il y a une vue sur la mer extraordinaire. Donc ceux
et
qui ont
îles.
Leur cité, et les îles, etc.
Et on diffusera...
On voit la valeur foncière que peuvent avoir de tels endroits et comment est-ce qu'on va virer les populations, c'est évident, quoi.
On diffuse un reportage là-dessus ces jours-ci dans la thématique spéciale logement. Alessi ?
Oui, toute cette langue de bois qu'on a entendue là par ces responsables, évidemment, ça donne véritablement envie de vomir. Et cet argument de la mixité sociale, c'est vraiment la tarte à la crème qu'on nous fourgue régulièrement. La réalité, c'est-à-dire, c'est qu'on veut casser... ce qui peut encore rester d'homogénéité dans les quartiers populaires, dans les quartiers prolétaires. La question, elle est là, point barre, que ce soit dans le centre de Marseille, qui reste l'unique ville populaire de l'Hexagone, ou dans la périphérie. Hein. Par ailleurs, tout ce qu'on a entendu là, c'est la légitimation d'un processus, d'une fuite en avant, c'est-à-dire l'argent facile du béton qui va miraculeusement sauver Marseille de son marasme. Au bout du compte, qu'est-ce qu'on aura ? On aura ce qu'on a déjà rue de la République, c'est-à-dire un tissu social et humain invisible aux yeux des décideurs. Mais qui était très fort. Enfin, la vie de quartier à Marseille, c'est quelque chose de très fort, qui a été irrémédiablement disloqué. Alors maintenant, c'est clair que sur la République, la bataille, c'est de se, vu que la situation globale de crise dans laquelle on est entré, ça va être de se battre pour récupérer, limiter la casse et récupérer le maximum de stock d'appartements sur du logement social. Ça, c'est clair et net. Mais ceci dit, sur l'affaire des trois tours de Jean Nouvel, là, on est vraiment, et sur ce qu'on a entendu, là, on est vraiment dans le délire pur et simple, indépendamment du caractère écologiquement aberrant de ce type de construction. On est vraiment dans une mauvaise parodie de ce qu'on a vu. Enfin, ils veulent avoir leur quartier de la Défense au bord de mer et ça s'arrête là. On est dans un processus incantatoire et rien d'autre. Je veux dire. Alors en plus, la proximité du port sert d'alibi, mais elle ne sert que d'alibi. Je veux dire, Euroméditerranée n'a absolument rien à voir avec la réalité maritime de Marseille.
Bon, mais là, pour enrayer la crise, le gouvernement a annoncé que l'État allait racheter 30 000 logements. C'est une bonne nouvelle, dont 30 000, dont 1 000 à Marseille. C'est une bonne nouvelle pour les défenseurs du droit au logement, non ? Qui veut répondre ? C'est une bonne nouvelle.
C'est-à-dire que racheter 10 000 ou 30 000 logements et imposer ce genre d'achat aux bailleurs sociaux, c'est tout simplement sauver les promoteurs. Quand vous avez Brod et Kaufmann dans tous les projets en rue, C'est pratiquement les promoteurs majoritaires. Donc aujourd'hui, dans un certain nombre de quartiers, par exemple autour de la région parisienne que je connais mieux, le prix du mètre carré est à 5000 euros du mètre carré. Aujourd'hui, ce genre de logements se vendent de moins en moins bien. Et donc, pour faciliter et alimenter la spéculation immobilière, eh bien, l'État décide qu'il vaut mieux favoriser les promoteurs immobiliers. Voilà. Et moi, je voudrais juste rajouter quelque chose. Quelqu'un, tout à l'heure, là, dans ce que vous avez passé, il y avait un responsable qui disait, vous verrez dans 10 et 15 ans. Eh bien, dans un certain nombre de villes, nous, on voit le bilan des démolitions. On voit que des populations entières sont chassées et que les villes ne seront plus jamais comme avant. Et effectivement, c'est toute une série de mémoires ouvrières, de mémoires immigrées qui sont à jamais chassées de ces quartiers et de ces villes.
Bon, on va être obligé de s'arrêter là, je suis désolée, on a écoulé le temps imparti. On n'a pas eu le temps de parler de ce qui se passait ici à Château Bel Air, à Marseille. Juste rappeler que cette mobilisation européenne se fait en solidarité avec des mouvements internationaux, et en particulier russes, puisqu'il y a eu une grosse répression. Tu veux dire 30 secondes, Annie, si tu veux.
En Russie, 800 villes sont organisées dans une coordination, et ces villes ont organisé pour la première fois la première manifestation du mouvement social contre la misère et contre, évidemment, la spéculation immobilière. S'en est suivi immédiatement des attaques extrêmement violentes contre les animateurs et animatrices du mouvement. Donc on va, par solidarité, dédier la manifestation de demain à Karine Clément, qui a été notamment agressée par 3 fois et qui est une des organisatrices contre la spéculation immobilière et pour l'autogestion des immeubles dans les quartiers populaires. Nous allons le dédier aussi particulièrement à Sergueï, qui effectivement, lui, est dans le coma depuis plusieurs jours, tout simplement parce qu'il défendait la déforestation et la fin de la spéculation immobilière dans sa ville. Et nous tenons aussi à dire que à Moscou, Saint-Pétersbourg et plusieurs villes de Russie, eux, vont manifester et organiser un piquet de grève en soutien à Marseille, tout comme à Barcelone, Saint-Sébastien, Bilbao, Istanbul. Lisbonne, Istanbul, dans les quartiers populaires, grâce à la coordination des 17 quartiers populaires d'Istanbul.
Voilà, pour plus d'informations, je vous renvoie au site web marseille2008.no-vox.org. Vous pouvez aussi retrouver différentes émissions autour du logement, de la gentrification et des transformations urbaines sur l'antenne et le site web de Grenouille. À part ces outils radiophoniques pour vous documenter sur le sujet, je vous renvoie au film de Patrick Taliercio, Les Indésirables, que vous pouvez vous procurer avec la revue Agone, intitulé Ville et résistance sociale. Autre document, le petit livre de Bruno Le Dantec, qui s'appelle La ville sans nom, aux éditions Le Chien Rouge. Enfin, mais c'est une évidence, le livre d'Alessi Dall'Umbria, Histoire universelle de Marseille, publié chez Agone. Merci à tous les invités d'avoir fait le déplacement pour intervenir dans cette émission spéciale autour de la mobilisation pour le droit au logement. Un grand merci aussi à Katia Kovacic d'avoir ramené les sons du forum Sudinfo. Merci à Tony et Sébastien à la technique. Et merci à Radio Zinzine pour la collaboration. Voilà, j'ai fait le tour. On peut vous laisser, vous donner rendez-vous ce samedi à 13h, Porte d'Aix, pour une manifestation pour le droit au logement. Cette manifestation partira à 14h, se terminera en haut de la rue d'Aubagne, au théâtre Masneau, où il y aura donc un forum de 16h à 19h. Salut !